Je choisis le livre des juges. Pourquoi? Parce que c'est une grande période de difficulté d'Israël. C'est une période très chaotique et nous sommes dans une période chaotique de ce monde. Hein. C'est assez humainement assez improbable de savoir ce qui va se passer avec tous ces dirigeants qui sont un petit peu complètement malades. Hein. Ils sont tous des malades pour finir. Ils dirigent le monde pas seulement malade, je pense que Satan fait beaucoup. Et donc, quand on est croyant, on ne peut pas se laisser balloter comme ça. Et je pensais, s'il y a des élections, parfois, ce qui se passe, quand on est chrétien charnel, ben, on va choisir un tel. On sait très bien qu'il y a des positions, une vie non pas chrétienne, mais il y a certaines idées que les chrétiens ont, donc on va voter pour lui. Ça, c'est des choix charnels. Il faut avoir un discernement spirituel. Si à un moment donné il ne faut pas voter ni la peste ni le choléra, ben on ne vote pas, on ne s'abstient pas. On ne choisit pas Hérode ou César. Il faut savoir à certains moments dire, mais moi je ne peux pas en choisir un de ceux-là qui sont là devant. Aucun ne vient de ta part, Seigneur. Donc il faut faire attention à cette manière charnelle que le christianisme aujourd'hui en Europe, surtout aux États-Unis, est en train de se... Et pour finir, on discrédite la foi chrétienne quand on voit les résultats. Il faut savoir admettre qu'on est pauvre dans une situation difficile, on n'a personne pour nous représenter, mais ne choisissons pas un ouvrier du diable pour nous représenter. Il faut savoir dire, Seigneur, j'attends des jours meilleurs, ça viendra de toi, mais en attendant, ceux-là qui sont devant moi, j'en en faut pas qu'ils viennent de ta part. Sinon, on se compromet, comme on a compromis en France pendant la guerre. Il y en a, les catholiques ont travaillé avec Pétain, Vichy, pour que le socialisme et le communisme ne passent pas. Hein? Ça donnait quoi? On a mis les juifs au four, on a fait massacrer des communistes, etc. C'est quoi cette compromission-là? Quand la ligne Maginot qui a été dressée, qui a coûté si cher, était faite, les fonctionnaires en haut lieu qui étaient d'extrême droite ont tout fait pour retarder la construction. Ils ont donné tous les renseignements aux Allemands. Ils savaient comment faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'idée que dans la classe sociale soi-disant chrétienne, il ne fallait ni le communiste, la religion du diable, ni les socialistes. Mais où est le diable pour finir? Parfois plus chez les croyants que chez les autres. N'oubliez pas que c'est les croyants qui ont fait crucifier Jésus-Christ. Et souvent, nous avons des choix. Actuellement, dans les années qui vont venir, nous avons des choix à faire. Il faut faire attention. Il ne faut pas se comporter comme un chrétien charnel. Il faut avoir un chrétien. Il faut avoir en nous un Christ, le vrai. Le Christ. Le vrai, pas le Christ de la chair que nous, on s'imagine et qu'on se construit nous-mêmes. Il faut faire attention. Et donc, dans l'époque de Gédéon et des autres, hein, on a vu Samson, il y a des gens qui se sont forgés des images de Dieu qui ne correspondaient pas à Dieu et qui se sont égarés, qui n'ont pas fait volonté de Dieu. Et c'est une période très difficile, c'est pour ça que je la choisis, pour qu'elle nous éclaire. Donc Juges chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc Madian, c'est qui? C'est les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham et de Hagar, l'Égyptienne. Et donc, c'est les Arabes. Que vous vouliez ou non. Et Amalek, les Amalécites aussi. Et leur symbole, c'était le croissant lunaire. Ils avaient des pendentifs, des trucs aux oreilles, c'était le croissant lunaire. Et regardez bien, après, l'islam a adopté la lune, etc., pour les ramadans et tout le reste. Mais on trouve aussi dans les sectes des réunions le jour de pleine lune. Moi, j'ai aidé des gens à sortir de certaines sectes. C'était horrible ce qui se passait durant ces nuits-là, comme scène de perversion. Alors, pas facile. Il faut faire attention. Dieu l'a dit, que les lunatiques n'hériteraient pas le royaume des cieux. La lune a une importance énorme dans les religions sataniques, et dans les mouvements sataniques, et dans les réunions sataniques. Et il y en a, hein. Moi, je sais où elles se tiennent, ici, dans le coin. Elle est rigolo. Alors, pratiquement, ce sont des gens, et il y a un autre symbole de cette tendance-là, c'est l'étoile à cinq branches. Et l'Europe en est arrivée, avec Noël, les sapins de Noël, les crèches, à mettre des étoiles à cinq branches, sans s'en rendre compte. Alors qu'il y a ça, 50 ans, c'était des étoiles à six branches. Étoile de David, de Bethléem, qui est devenue l'étoile d'Israël, bien sûr, l'étoile qui a été constituée le 14 mai 48, a pris cette étoile. Et de là, une aversion totale pour cette étoile, on prend l'étoile à cinq branches, allez lire Actes des Apôtres chapitre 7, vous verrez l'étoile de Moloch, ennemi d'Abraham et de ses enfants. Alors, pratiquement, voilà, c'est des caïds, hein, ils sont costauds, tous ces gens-là, ils arrivent, et ils sont extrêmement nombreux. Regardez au verset 5, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Guerre de pillage. La prochaine guerre en Israël, en Ézéchiel 38 et 39, c'est une guerre de pillage, de butin. Et c'est le même scénario. C'est le même scénario. Hein. Alors, c'est Atavik. Il y a toute une série de peuplades dans ces régions-là. On aime piller, on aime envahir. Et à l'époque de Job, 21 siècles avant Jésus, Job, allez, eh bien, c'était la même chose. Ceux qui ont ruiné Job, c'était ceux-là. Bon. C'est pas une question d'islam. Hein. C'est une question que, comme un médecin, mon médecin cardiologue m'a dit, ils aiment le sang. Il n'y aura jamais la paix. C'est une question d'islam. Avant l'islam, il y avait déjà ces tendances-là. Alors, voilà. Donc, je reprends le verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Donc, clairement, c'est ce que Jésus a annoncé. À un certain moment donné, vous êtes dans le champ, ne rentrez pas à la maison, fouillez, etc. Vous êtes dans le lit, il y en a un qui sera pris, etc. Parce qu'il va y avoir une période de tribulation sur Israël, à un moment donné, quand l'Église est enlevée, il y a une période, l'Israël inconverti reste, et il va subir des tribulations énormes qui sont du même style, où il va falloir, dans la terreur, se cacher n'importe où, le plus vite possible. Dans les cavernes, regardez, dans les creux des rochers, et dans les rochers fortifiés. Ben, les rochers fortifiés, quand Rome est passé, hein, avec Titus, en 79, 79 ou 69, je ne sais plus, j'hésite toujours, avec Titus, ils ont fait tous les rochers fortifiés. Hein. Ils les ont tous rasés un après l'autre. Hein. Ah, c'était un carnage pendant 3 ans. Hein. Et ceux-là, là, qui viennent de l'Orient, ne sont pas différents. Quand ils font le travail, ils le font à fond. Hein. Regardez ce qui s'est passé en Syrie, hein, quand vous voyez les photos. Alors, quand Israël avait semé, verset 3, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui et détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, vous avez vu, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Donc, c'est la razzia, c'est le pillage. Et bien sûr, on prend les femmes et les filles pour les mettre dans les harems et pour en faire des prostituées, pour en faire des esclaves. Et les hommes, qu'est-ce qu'on fait? Quick, quick. Ben c'est pas neuf, hein. Car ils montaient avec leurs troupeaux, on l'a lu. Alors, au verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc, Ézéchiel 38, ce qui s'annonce, c'est qu'à un moment donné, il y aura des accords de paix signés, sous la contrainte de l'Europe, etc. Historiquement, il y a des prophéties qui le montrent, les États-Unis vont se retirer, vont ne plus défendre Israël pour un certain temps, ne vont plus faire de politique au Moyen-Orient, et c'est la libre action de Gog, donc la Turquie, de Magog, la Russie, et de Elam, l'Iran, et de Kedar, d'Edan, c'est l'Arabie, et du Sud, c'est l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. Et plus de Libye, c'est la Turquie, et Tarsis, l'Espagne. Ils vont se coaliser, et ils vont quoi faire ? Imposer des accords de paix, donc il n'y aura plus rien. ils devront dire « Ah, c'est la paix, on s'aime beaucoup ». Mais il faut savoir que dans le Coran, moi je l'ai lu, que les Juifs sont des descendants de cochons et de singes. Donc ils vont signer avec des descendants de cochons et de singes, ça veut dire que deux minutes après, ils n'y croient pas à ce qu'ils ont signé. Il n'y a que les Européens pour croire ça. Des gugus idéalistes. Ou alors hypocrites. Parce qu'on vend des armes, on vend tout, et il faut faire du business. Hein ? Bon, on en est dans une histoire assez proche de l'époque des juges, où Israël va un jour connaître de nouveau des trucs pareils. Alors, au verset 7, « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. » Voilà, ils sont dans la détresse totale. Donc, nous voyons le raccord qu'on peut faire avec tout ce qui a été dit par Michaël tout à l'heure dans les psaumes. Hein. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et ce prophète, on n'a pas le nom. Mais il y en a eu souvent. Des gens envoyés par Dieu qui envers et contre tout disaient des choses et qui arrivaient. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Donc il rappelle les œuvres de Dieu à l'époque de Moïse. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, car le pays... Je craindrai point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Donc, il y a des dieux, il y a des puissances spirituelles. Il ne faut pas les craindre. Mais si vous êtes dans la crainte, ben ça y est, c'est la terreur, c'est l'angoisse. Donc, c'est tout le thème que Michael a traité. Et pratiquement, mais pourquoi sont-ils dans la crainte et la terreur? Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Donc, c'est ça que je vous ai dit avant de commencer la prédication. Il faut être régulièrement dans la parole de Dieu et entendre la voix de Dieu et s'enrichir. Quand vient l'épreuve, Dieu ne permet pas que l'ennemi vous mette dans la terreur et l'angoisse. En tout cas, ça ne dure pas longtemps. Et si vous n'avez pas un fondement sûr dans la parole de Dieu et dans la relation avec Dieu par sa parole, vous êtes laminé. Alors vous irez voir les psychiatres, les psychologues et les pharmaciens surtout. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention que tout ça, c'est très actuel. Hein? Et je n'ai rien contre les Arabes à proprement parler. C'est plutôt les dieux des Amalécites et des Arabes qui sont là derrière. C'est ce qu'on appelle le dieu jaloux. C'est l'autre, c'est pas celui de Christ. Hein? C'est l'autre. Alors, nous voyons que Dieu aime le peuple parce qu'il envoie un prophète qui dit « Mais le problème vient de ce que vous n'avez pas écouté ma voix. » Donc Dieu d'abord met sous notre nez l'effet, que ça nous plaise ou ne nous plaise pas. Alors, au verset 11, regardez bien ce qui se passe. « Puis vint l'ange éternel et s'assit sous le térébin d'Ophra, c'est un endroit qu'on peut encore visiter, qui appartenait à Joas, la famille d'Abiézer. » Donc c'est la tribu de Manassé. Où est Manassé? Ah, parce que tout ça c'est beau, mais quand on ne voit pas une carte, on se demande à quoi ça sert. Alors, Manassé. Manassé est une tribu extrêmement puissante qui a toute cette partie-là, vous voyez, hein? Et ici, attendez, où est-ce que je suis? Là. C'est des Caïtes, hein? C'est une tribu de Caïtes, hein, les Manassé. Et je vais laisser passer tout ceci. Alors, l'endroit où se passe la bagarre, après, où c'est, si vous voulez, c'est Israël, ici, c'est là que va se passer tout le problème de Gédéon. OK ? Donc, sur les territoires de Manassé. OK ? Allez, vous pouvez passer la carte si vous voulez voir. C'est fort important de se rendre compte que la Bible est inscrite dans un espace et dans une histoire concrète. On retrouve des traces archéologiques quand on va là-bas, hein, et tout ça. Alors, et on voit les tendances des peuples, hein, elles sont toujours les mêmes dans cette région.
À la fin de la Bible qu'on a, Esaïe, là, on a la carte.
Oui, oui. Alors, pratiquement, Gédéon, c'est un homme comme plein d'autres de son époque, mais Dieu va le choisir, hein. Regardez, il battait du froment au pressoir. Donc c'est l'endroit où on presse le vin. Hein, vous avez déjà vu un pressoir, ben, quand il y a des vignes, on fait du vin, Et quand il y a des olives, on fait de l'huile. Donc le pressoir, c'est un endroit qui ne convient pas pour battre le blé. Si on va battre le blé là, c'est parce que justement, on sait que les Amalécites ne vont jamais penser qu'on est là. Et pourquoi? Parce que M. Gédéon est rebelle et il ne veut pas que, comme certains faisaient pendant la guerre, que les boches aient notre récolte. Ou le cochon qu'on avait élevé dans la cave. Hein? Ou le blé qui était cultivé dans le champ. Hein? Et il y avait des gens qui avaient des moutons dans le grenier qui apportaient l'air. Ben oui, pour que les boches ne voient pas. Et il faut manger quand même en temps de guerre. Eh bien, c'était la même chose là, avec le pressoir. Eh bien, jamais pensé, ce n'est pas la récolte du vin ni des olives. Bon, on n'ira pas, ils ne sont pas là-bas. Donc, on va aller là où l'ennemi pense qu'on n'est pas. Et on va battre le blé, tchac et tchac, et puis on met du blé de côté, parce qu'il en faut pour nourrir la femme et les gosses. Et puis même le petit vieux, la petite vieille, que grand-père, papy, mamie, il faut qu'ils mangent aussi. Ils ne savent plus rien faire, mais ils mangent quand même. Alors, pratiquement, ce qui se passe, c'est un rebelle, c'est un résistant, si vous voulez. On pourrait le mettre dans la catégorie des résistants. Ce caractère charnel en lui, Dieu l'apprécie, en certain sens. Il va le choisir parce que c'est un rebelle, un résistant. Je sais bien que dans notre église, il y en a pas mal. Mais ce qu'il y a, j'en suis aussi. Mais pratiquement, ce qui se passe, les amis, à la fin, quand Dieu a fait son œuvre, a délivré Israël, le côté rebelle revient. Il va prendre tous les amulettes en or, tous les demi-lunes, les pendentifs des Arabes, etc., des Amalécites, et il va faire une statue pour l'adorer. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Gédéon, oui. Ça veut dire qu'il est retourné à son côté rebelle. Alors, je voudrais vous donner un enseignement quand même qui est extrêmement important. Si vous avez un caractère rebelle, et puis tout d'un coup, bon, ah, Jésus, je l'aime, je l'adore, j'écoute la parole. Ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis quand on regarde la fin de la vie, voilà qu'en étant vieux, on fait tout le contraire. Il n'y a pas d'heure pour être saint. Hein? C'est pas parce qu'on est vieux qu'on va devenir saint. Hein? C'est pas parce qu'on est vieux qu'on a appris à aimer plus Dieu. Hein? Il y a des fois beaucoup de gens qui, en vieillissant, retournent à leur péché de jeunesse. S'ils ne savent plus les faire physiquement, ils les ont dans la tête, et dans les paroles, et dans les pensées. Le péché a la vie dure, hein? Le péché a la vie dure. Comme ma mère, 93 ans, elle dit des hommes plus vieux, plus fous. Ça veut dire beaucoup de choses, hein, ma mère qui dit ça. Alors, pratiquement, moi je pense qu'avec l'âge, la sagesse ne vient pas. La sagesse vient de ce qu'on combat son propre tempérament, sa propre tendance au péché. L'intelligence du mal, c'est la haine du péché. L'intelligence, c'est la haine du mal, c'est la haine du péché. Dans le livre des Proverbes. Alors, pratiquement, faites attention, l'histoire de Gédéon, c'est quand même une histoire, quand on voit comment que ça se termine, c'est quand même catastrophique. Il ne faut jamais dire « j'ai gagné, je suis le bon chrétien hein ». Ça, c'est le début de la fin. Celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève, craque. C'est pour ça que je posais des questions sur ce qui se passait dans les églises à quelqu'un qui connaît bien les États-Unis, ce qui se passe dans les églises aux États-Unis. Il y a beaucoup d'argent, des beaux bâtiments et tout, mais où est réellement, des fois, cette foi telle que Jésus de Nazareth, le charpentier, qui marchait nu-pied, il n'avait pas de pierre pour poser sa tête, où est cette foi, cette simplicité de Christ? Alors on n'est pas étonné qu'à un moment donné, quand il y a des élections, on vote pour tel lascar qui n'a rien à voir avec l'évangile. Alors, pratiquement, il faut faire attention, même à Rome, où pour le moment, il est très persuasif, le petit monsieur en blanc, à Rome, il est très persuasif, il paraît très saint. Il n'a jamais vendu la chapelle Sixtine, il n'a jamais liquidé les banques, il n'a jamais appauvri son église pour le partager avec les pauvres. Quand il va à Lampedusa, il dit aux autres, aimez les pauvres, protégez les pauvres. Les amis, il faut faire attention, il faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on voit, parce qu'il y a des séductions puissantes qui sont en train d'agir pour trompés. Il y a beaucoup d'évangéliques qui considèrent le petit monsieur en blanc de Rome comme un saint chrétien. Je n'en suis pas persuadé. Il fait beaucoup trop de politique pour moi, et il fréquente des hommes politiques, et il n'a rien fait pour secouer le prunier au niveau de la richesse de son organisation. Cinquième puissance mondiale financière. Ah, oh, mais il ne peut rien, c'est tous les cardinaux alentour, etc. Tous les... Ah non, il ne peut rien, mais qui quitte, hein, qui démissionne. On peut toujours. C'est l'exemple de Jésus qu'il faut suivre. Alors, ici nous avons donc un homme qui a un côté rebelle, qui a un côté, je dirais, réactif, et qui est en train de défendre son casse-croûte malgré les ennemis. Et donc, l'ange éternel lui apparaît, verset 12, l'ange éternel lui apparut, oppresseur, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Il n'est pas encore héros, que l'ange éternel lui dit, tu vas être un héros. Je t'ai choisi pour être un héros. C'est quoi un héros dans l'histoire? Roland Roncevaux dans les Pyrénées contre les Maures, hein, etc. Chez les Flamands, ils ont tenu tête à la chevalerie française, Skeltenbrint, hein, la bataille des Éperons d'or. Il y avait des héros, bien sûr. Eh bien, il y a toujours eu des héros dans toutes les histoires, dans toutes les légendes de tous les peuples. Parce qu'on est toujours les plus beaux et les plus forts. C'est toujours les autres qui sont idiots. Dans l'histoire, quand on enseigne à un peuple, eh bien, il y a des héros, bien sûr, mais ici, c'est Dieu qui dit, c'est pas l'histoire. Tu veux être un héros. Ça veut dire que tu vas tenir tête à tes ennemis alors que tu n'as aucun moyen pour le faire. Et je vais t'apprendre que tout va se faire avec moi. Dans votre vie, Dieu vous dit, tu dois être saint comme je suis saint. C'est clairement ça. Lisez la première épître de Pierre, soyez saint comme je suis saint. Eh bien, mon vieux, ça me fait une jambe, hein, pour être saint. Oh là 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 là. Si vous saviez déjà ce qui se passe dans ma tête, jour et nuit, moi, vous verriez que c'est pas ça, hein. Alors, pratiquement, même des fois, dans les faits et gestes et tout. Alors, être saint. Et Paul avait le courage de dire, il s'adressait aux églises qu'il avait fondées, il les appelait les saints. Les saints de Thessalonique. Hein? Les saints, les Corinthiens, les Corinthiens, et quelle pagaille qu'il y avait chez les Corinthiens. Alors, pratiquement, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Eh bien, parce qu'il y a une vocation, il y a un appel, et il y a Jésus-Christ qui travaille dans les chrétiens pour les rendre saints. C'est le Christ qui est là, qui est saint, et qui veut habiter son peuple et le rendre saint. L'appel est irrévocable. Nous allons vers la sainteté. On veut résister, on veut aller contre, on sera brisé. On sera brisé. Mais on ira dans le chemin que Dieu a choisi si on a été appelé. Mais ici, eh bien, notre héros, vous allez voir qu'il ne va pas devenir héros par lui-même, mais grâce à Dieu. C'est déjà un enseignement très important, hein. Mission impossible pour nous, mission possible pour Dieu. Regardez, tous les troufions que Jésus avait choisis, qui l'ont trahi, qui l'ont quitté, et qui ils sont les fondateurs de l'Église de Jésus-Christ. Hein? Eh bien, dis donc. Ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, et ils ont été enseignés dans la parole de Dieu par Jésus lui-même. Dans Luc chapitre 24, il a pris les prophètes, Moïse, les psaumes, etc., et les a enseignés. Et ils ont une sacrée leçon, Marie de Magdala, une ancienne prostituée, de qui Jésus avait cherché cette demande. Ils ont une sacrée leçon, c'est cette femme-là qui les a ramenés à Christ. Pas demandé. Donc Dieu a choisi ce qui leur paraissait vil pour leur montrer qu'ils devaient être au bas, au plus bas, pour le servir et fonder l'Église. Et c'est le Christ qui fonderait l'Église, pas eux. Eh bien voilà, la situation d'Israël dépend de Dieu, encore aujourd'hui. Et Ézéchiel 38, qui va se produire d'ici quelques années, rapidement. La situation d'Israël dépendra de Dieu. Vous pouvez lire les textes, vous verrez. C'est très, très proche de ceci. Alors j'ai dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ça y est, il accuse Dieu. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Alors, hors d'Égypte, alors pratiquement, Ben, tout ça, je n'y crois plus, hein. J'y crois plus, hein. Ça ne se produit jamais pour nous, donc c'est du bidon, c'est de la mythologie, quoi. En tout cas, si ça arrivait une fois, ils avaient de la chance, nous, on n'a pas de chance, hein. Alors, maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna et lui dit, va avec cette force que tu as. Alors, l'Éternel nous abandonne. Et qu'est-ce que l'Éternel avait dit, lui ? Au verset 10, à la fin du verset 10, vous n'avez point écouté ma voix. Donc Dieu a dit, vous m'avez abandonné. Regardez bien ce qui se fait en Europe pour le moment. Nous avons abandonné Dieu. C'est pas Dieu qui nous a abandonné. Nous avons abandonné Dieu. Maintenant, il nous met le caca sous le nez. Qu'on a semé. Alors, regardez bien. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. Donc l'ange éternel et l'Éternel, c'est la même chose, bien sûr. Hein. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Donc, l'ordre de mission est impérieux. C'est la volonté de Dieu. Tu iras avec la petite force que tu as. Pensez aux fondations de l'Église avec les apôtres. Pensez à votre vie. Si vous voulez avoir une vie chrétienne, sachez bien que c'est dans la force que le Seigneur vous donnera tous les jours que vous devrez puiser, pas dans la vôtre. Quand l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 12, il dit, par trois fois j'ai été souffleté par le démon, j'étais malade 7 ans, gravement. Il ne voyait plus clair, il ne savait plus écrire, il ne savait plus voyager, il était à Éphèse. Eh bien, et il le dit dans 2 Corinthiens, j'étais livré aux bêtes. Quand on regarde dans le texte en grec, c'est démonion, les démons. Eh bien, pratiquement, il dit, et Dieu n'a pas exaucé ma prière, il ne m'a pas guéri. Et il m'a dit, ma grâce seule te suffit. C'est dans ta faiblesse que je me glorifierai. Ok ? Eh bien, voilà. C'est souvent des leçons comme ça qu'on a pour nous rabaisser le caquet. C'est pas pour ça qu'on est des nuls, hein, parce que Dieu nous aime. Mais notre péché est nul. Ça, c'est différent. J'ai dit, on lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai Israël ? Cette fois-ci, il ne dit plus non. Il a compris que c'était important. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme, je serai avec toi. Qu'a dit Jésus quand il est parti au ciel ? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Une des premières fois, moi, quand j'ai dû lutter contre de l'occultisme puissant, c'est les versets que j'ai pris. Ça s'est arrêté. La maison tremblait, le toit tremblait, c'est comme s'il y avait 200-300 personnes sur les toits qui marchaient. La première fois que j'ai été dans une situation invraisemblable, j'étais coincé là. Eh bien, j'ai pris ce verset-là, ça s'est arrêté. Et la jeune femme qui avait joué avec l'occultisme et tout ça, avait de l'asthme, elle a été guérie de l'asthme. J'ai vu la puissance de la parole de Dieu. Souvent, il faut l'accepter aussi, la parole de Dieu. L'aimer. Mais il faut croire dans notre nullité. Ça, c'est clair. Il faut l'accepter tout de suite. L'ennemi est trop fort. Pour nous, l'ennemi, c'est pas la Somalie, c'est les Arabes, les amis. C'est pas l'islam. C'est pas ci, c'est pas ça. L'ennemi, c'est Satan. Et l'autre, qui est aussi important, c'est notre péché. Alors, regardez bien, verset 17, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Donc voilà, cet homme-là accepte que Dieu le prenne, le mette en mission, et il lui faut un signe. Bon, vous savez, quand Jésus est à Cana avec ses disciples, quand il commence dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, il fait un signe. Jésus montra pour la première fois sa gloire, il fait un signe. Le mot signe, c'est pas un miracle, hein, c'est meyon. C'est un signe. Il change l'eau en vin. Et pourquoi ? Parce que dans Ésaïe au chapitre 24, il y aura un jour où toutes les nations sont réunies à Jérusalem pour un banquet où on boit du vin. On mange devant l'Éternel et Dieu, devant tous, anéantit le voile de la mort, la puissance de la mort et du péché. Chac. Donc le signe, c'était ce qui a été dit. 8 siècles avant, je vous le dis, aura lieu. C'est ça un signe. C'est, il appuie la parole de Dieu, son père, du prophète Élie, et il montre à ses disciples, je suis venu pour ça. Et pratiquement, c'est la même chose ici. C'est Dieu qui est là. Hein? Alors, au verset 16, l'Éternel lui dit, « Je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. J'apporte mon offrande, je la dépose devant toi. » L'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Comme Abraham, quand les trois anges arrivent, il y en avait un qui était l'ange éternel, le Christ, et bien pratiquement, il y a un repas. Toujours, en présence de Dieu, il y a un repas dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Mais regardez pour nous, dans Apocalypse chapitre 19, quand Jésus revient, il nous met la robe blanche, les œuvres saintes de saints, hein, que Dieu fait en nous, et pratiquement, on est au banquet, les noces avec l'agneau. Apocalypse chapitre 19. Il y a toujours un repas. Il n'y a rien de plus désolant dans une famille. Quand l'homme et la femme ne sont plus jamais ensemble à table pour manger et pour avoir le temps de se parler. Il n'y a rien de plus désolant que quand les enfants, les parents, tout le monde court à droite et gauche à cause du boulot, tout le reste, tout le monde bouffe n'importe à quelle heure, va dans le frigo, va n'importe où, et il n'y a plus de repas ensemble. Il n'y a plus de communion, de rencontre, il n'y a plus d'écoute. Allez, zoom! C'est extrêmement dangereux. On ne peut pas construire une famille sans avoir des repas en commun. Où on peut se parler, s'écouter, se rencontrer. C'est extrêmement important. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Avec Christ, il y aura le temps qu'il faudra pour que tout le monde soit sur la même note, la même gamme pour chanter avec les anges et les saints. Il y aura la même note pour comprendre la parole de Dieu, le même Saint-Esprit, l'unité du Saint-Esprit. Et donc, le repas est un signe très important. Et qu'est-ce que veut faire Gédéon ? Il sait d'honorer Dieu, et c'est une action de grâce, bien sûr. Et regardez bien, verset 19, Gédéon entra, prépare un chevreau, et il fit avec un épha de farine des pains sans levain, il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, et lui apporta sous le térébin et présenta. L'ange éternel, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Il fit ainsi, l'ange de l'éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Comme dans le temple de Jérusalem, comme sur l'autel, pour tous les holocaustes, regardez Lévitique, Deutéronome, Nombre, vous verrez. C'est là que Dieu propose une offrande agréable à Dieu. C'est-à-dire que Christ offre une offrande agréable à son Père, en présence de Gédéon. Et l'ange éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange éternel face à face. » Et l'éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Ben oui, en principe, devant Dieu, tant qu'il y a un péché, on meurt. Donc on ne verra Dieu le Père que quand il n'y a plus de péché. L'accomplissement d'Ésaïe 24. Alors, pratiquement, quel est donc ce Dieu qui apparaît ? Eh bien, quand vous regardez Jean, chapitre 1, verset 14, « Nul n'a jamais vu Dieu, mais son Fils unique, issu du sein du Père, nous l'a révélé. » C'est le Christ qui est le médiateur entre Dieu le Père et nous. C'est le Christ qui de toute éternité existe et qui intervient dans l'histoire d'Israël, l'histoire des hommes, pour glorifier le Père et pour conduire les hommes au Père. Regardez dans Jean chapitre 17, quand Jésus dit « Père, je t'ai toujours glorifié. Aussi, maintenant, le moment est venu que tu me glorifies. Je t'ai toujours glorifié. » Depuis qu'il a prêché à Capernaum, à Nazareth, etc. Le Christ a glorifié le Père de toute éternité. Regardez bien dans Genèse, quand tout est créé, en sept yom, sept périodes, sept jours. Hein? Dans chapitre 2, verset 1 à 4, et Dieu acheva la création, alors qu'elle était achevée. Acheva comment? Par le repos, le sabbat. C'est-à-dire que le Christ rend gloire à Dieu pour l'œuvre faite, et il la remet à son Père. C'est pour ça que, quand vous voyez que les pharisiens attaquent Jésus, parce qu'il a mangé quelques grains là, avec ses disciples dans les champs, il dit, le sabbat, mais c'est le Fils de l'homme qui en est maître, c'était Jésus. Parce que le sabbat a été fondé par Christ à la création. On rend grâce de tout ce qui a été fait. C'est moi qui l'ai fait. Je le rends à mon Père, c'est pas à moi. C'est à mon Père que revient la gloire. Jésus a toujours glorifié son Père. Le principe du sabbat, du jour de Dieu, c'est de glorifier Dieu. De le mettre à l'honneur, de le mettre devant. Eh bien, ici, Gédéon a mis Dieu devant. Tout d'un coup, le gaillard rebelle, un peu ignorant, a compris que la clé de sa mission, c'était d'être Dieu devant et pas derrière. Alors, je vous le dis d'avance, pour nous tous les jours, Dieu devant ou dans le placard? Dieu devant ou dans le coffre de secours? Dieu devant ou aspirine que je vais chercher à la pharmacie? Dieu devant ou suppositoire quand je n'en peux plus? Non, Dieu devant, dans mon cœur. Et regardez bien, quand vous voyez dans l'Apocalypse cette église, la première église d'Éphèse, ils ont abandonné mon premier amour, l'amour de Christ. Repends-toi d'où tu es tombé, sinon j'ôterai ton chandelier sa place. Mais c'est pas repenti, il y a une belle église, ça ronflait, comme il y en a plein sur la terre. Eh bien, on a retiré le chandelier de la place, il n'y a plus d'église, c'est l'islam qui est là. Si on ne met pas Christ dans notre vie à la première place, l'Église disparaît. Dieu n'a jamais voulu qu'on crée un bastrinque. Un bastrinque, une organisation. Il veut que nous soyons le temple dans lequel il vient et il veut être adoré dans notre cœur et aimé et obéi dans notre cœur, dans notre esprit. Les cathédrales, les mosquées, les temples et tout ça, ce n'est que des moyens pour nous égarer si on prend ça trop au sérieux. Le vrai temple, la vraie maison de Dieu, c'est nous. Épître aux Hébreux, chapitre 2. Alors, eh bien, notre ami Gédéon a basculé sur quelques instants en présence de Dieu. Il a découvert une chose importante. Dieu devant. Oui, d'accord, j'accepte la mission. Eh bien, la fondation de l'Église avec les apôtres, Pierre et tous les autres, ça a été ça. Le basculement, c'était ça. Dieu devant, Dieu avec nous, Dieu en nous, mais nous, en bas. Pas commencer à faire le ronflant et l'orgueilleux. On est super juif, on est super chrétien, ainsi ça. Alors, continuons. Il s'éleva du rocher un feu, au verset 21. Le rocher hein, produit du feu. Est-ce que c'est un volcan Ah. Eh bien, il faut savoir que dans Moïse, il y avait déjà un rocher, il sortait de l'eau. Et avec Élie, il a fait un holocauste devant les prêtres de Baal. Il y a eu le feu qui est tombé sur les offrandes, et le feu venait du ciel. Le feu qui vient du rocher, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, le rocher qui suivait Moïse et qui conduisait le peuple, c'est Christ. Yavol, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. C'est la présence de Christ. C'est la personne de Christ. Alors, il bâtit un autel, hein, bien sûr. La fin du verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange éternel, dit, « J'ai vu l'ange éternel face à face, et l'éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'éternel, un simple caillou, un rocher. C'est le temple de Dieu, c'est l'autel de Dieu. Et il donna pour nom l'éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Bon, alors pratiquement, il va encore y avoir, bien sûr, d'autres événements. Il va y avoir une offrande très importante, hein, et au verset 26 et 27, et parce qu'il honore vraiment Dieu, il met devant. Mais les gens de la ville, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens de la ville, au verset 28 et 29? Mais ils sont enragés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un hôtel. Il y avait un hôtel à Baal. Et ils constatent qu'il est renversé. Au verset 28. L'hôtel de Baal était renversé. L'idole placée dessus était abattue. Et etc. Alors, ce qui est important, c'est que l'animosité de tout le monde sur Gédéon va s'enflammer. S'enflammer. Et qu'est-ce qu'ils vont dire au verset 30 au papa de Gédéon, à Joas? Ils vont dire, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal, abattu l'idole qui était dessus. Vous voyez le conflit spirituel? Le conflit spirituel est important. Et pratiquement, ce qui se passe, il y a eu du courage dans cette vie de Gédéon, du courage. Il a cru en Dieu, il a marché avec Dieu. Et tout d'un coup, il a tout le monde sur le dos. C'est un peu l'image de Christ. Qu'il meure. Crucifie-le, libérez Barabbas. Hein? Et aujourd'hui, dans certains pays, regardez en Irak et en Syrie, les chrétiens, ou je pars, ou je meurs. Hein? Et dans d'autres pays aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lisons le verset 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. » Donc, qu'est-ce qu'il y a? Le papa qui était païen, qui adorait Baal, qui avait une statue et qui faisait un culte à Baal, comment les gens, eh bien, tout d'un coup, crac. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a touché le papa, et pratiquement, il prend parti pour son fils et pour Dieu. C'est aussi un signe. Vous savez que Gédéon avait demandé un signe. Mais le premier signe, le blanc. Vous ne toucherez pas mon fils. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne, si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Quand un chrétien a des difficultés dans sa vie, s'il aime vraiment le Seigneur, Satan va, au début de sa vie chrétienne, et encore peut-être parfois longtemps, s'il a fait de l'occultisme, il a fait de la magie blanche, il a fait du magnétisme, il a fait de la radiesthésie et tout ça, il ne va pas lâcher. Hein, parce qu'il est vexé, il est humilié, il a perdu un ouvrier utile pour égarer les autres, et pratiquement, pour répandre son mensonge sur la terre, et son œuvre de mort, eh bien pratiquement, il va s'acharner. Mais ce n'est pas les moyens humains qui vont protéger ce nouveau chrétien. Hein. Jamais. Hein. Ni le psychologue, ni le psychiatre, ni rien du tout. Hein. C'est tout simplement Dieu lui-même. Et ça, voilà ce que dit, sous d'autres mots, le papa de Gédéon. C'est Dieu lui-même. Que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Que Satan se débrouille, hein. Ce chrétien-là est vraiment converti. On va voir, tiens. Ça veut dire quoi? Nous avons l'assurance du salut et de la victoire en Christ. Nous avons l'assurance du salut et de la victoire en Christ, les amis. Il ne faut jamais mettre Satan à l'honneur en commençant à faire, à avoir peur et en parler à tout bout de champ. Ça ne sert à rien. Il a déjà perdu. Lorsqu'on appartient à Christ, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, « Nul ne vous ravira de la main de mon Père. » Voilà. Les amis, il faut tenir des leçons de tout ce qu'on voit dans la Bible, de tout ce que Jésus enseigne, mais des leçons pratiques, spirituelles, fortes. Hein? Alors, verset 33, « Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée d'Israël. » Je vous ai montré la carte, hein, Israël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Donc c'est les tribus de Manassé. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, Zabulon, Nephtali, les tribus qui sont alentour de Manassé, qui montèrent à leur rencontre, les tribus du Nord. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, à terre, là où on bat le blé. Si la toison seule se couvre de rosée, donc au matin, et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. La rosée va être humide. La nuit d'après, la rosée est sèche, le sol humide. Hey, Gédéon, il veut des preuves, hein? Ok, il veut des preuves, ben, il veut des signes. Et il ne veut pas vexer Dieu. Hein. Il sait bien que Dieu est grand et que... Oula, verset 39. « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Je ne parlerai plus cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Vous savez, dans votre relation avec le Seigneur, ne le provoquez jamais. 1. Craignez-le, respectez-le. 2. Vous avez besoin que votre foi se fortifie. Il faut un signe. Il faut un signe. Moi, je me rappelle, lui qui était, il sortait de tout son monde astreinte, hein, il y gagnait des sous, tout d'un coup, il n'y a plus rien, etc. On faisait une réunion chez lui, puis il venait ici. Et tout d'un coup, je priais, je dis, mais moi, je sais par où on passe, quand c'est comme ça, parce que j'ai connu ce truc. Alors, pratiquement, Seigneur, un signe pour lui montrer que tu es vivant et que tu agiras toujours, que tu seras là. Puis j'ai pensé à sa sœur. S'il perd sa sœur, il est foutu, il va retomber. Parce qu'il était fortement attaché à sa sœur. Je dis, Seigneur, si tu le permets, je vais lui demander de venir voir sa sœur à l'hôpital, on va lui prier pour elle. Nous sommes allés à l'hôpital, nous avons prié. Elle est toujours là. Pratiquement, elle était très menacée. Je ne voulais pas que me faire passer pour un gourou et un guérisseur. M'en fous complètement, Dieu ne m'a pas demandé ça. Et ce qu'il y a, je voulais qu'il y ait un signe pour Michael, pour que sa foi reste. Gédéon a demandé un signe, il l'a eu. Nous pouvons demander un signe à Annette. Elle est entourée d'un tas de gens qui ne croient pas, elle peut avoir un signe. Il faut qu'elle ait des signes. Ne parlons pas de miracle. Ça, c'est le Père Noël qu'on tire la barbe, et le lendemain matin, il y a tout dans les souliers. Hein? Le signe, c'est quelque chose qui s'adresse à ma raison, à mon intelligence, et qui me fait comprendre que Dieu est vivant, il est là. Et tout revient à Dieu, tandis que le miracle, tout revient à moi. J'en ai plein, les souliers, c'est bien, je vais moi manger tout ce qu'il y a dans les souliers. Je leur redemanderai le lendemain. Non, c'est pas ça. Le signe s'adresse à ma conscience, à mon âme, pour montrer que Dieu est fidèle et bon et puissant, et qu'il est en train de conduire ma vie. Le miracle, ben oui, je vais être content sur le moment, mais après, je peux encore oublier Dieu, hein, et avoir une foi qui dégringole. Il faut faire la différence entre le signe et le miracle. Le signe enrichit la foi. Le miracle, pas forcément. Ça dépend comment on le prend. Mais parfois, il y a des gens qui demandent des miracles toute leur vie, ils en ont eu plusieurs, et n'ont jamais la foi. On voit Jésus qui guérit 9 lépreux, il n'y en a qu'un qui revient. Il faut faire attention, les amis. C'est pour ça qu'il y a toute une doctrine évangélique, l'évangile de la prospérité, où on parle ministère de guérison et des miracles. Je l'aurais déjà écrit. Vous prenez un mauvais chemin, vous induisez les gens en erreur. C'est la même chose qu'à Lourdes, à San Damiano, à Dozulé. On attire les gens pour les miracles, mais pas pour la foi. La foi en Christ, hein. La foi dans un Dieu vivant. Ici, vivant ici. Alors, c'est très important, les amis, tout ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon nous concerne. Nous concerne. OK? Et nous allons continuer les autres dimanches la lecture de ces textes et la réflexion qui les concerne. Donc, pensons bien que l'ange de l'Éternel est efficace, c'est le Christ, l'Ancien Testament, il agit avec efficacité pour fortifier Gédéon, comme aujourd'hui, il cherche à nous fortifier. Si nous sommes réfractaires, pensons bien que même si le Christ vient de notre vie, il y a toujours un danger, il ne vient pas du Christ, de notre chair rebelle. Et vous verrez qu'à la fin de sa mission, quand tout va bien, qu'il a eu la réussite dans sa mission, il dégringole. Et ses fils, alors là, ce n'est pas un cadeau. Parce qu'il est dégringolé dans le péché, il a ouvert la porte au péché pour ses fils. Il faut faire attention, les amis, que quand on a le Seigneur, il faut rester fidèle et humble. Il faut marcher comme notre Seigneur Jésus, humblement et fidèlement, jusqu'au dernier souffle. Et pas se croire arrivé, pas agir dans la chair. Nous devons perdre notre côté réfractaire et rebelle. Il n'y a pas de chrétien républicain. Il n'y a pas de chrétien démocrate. Et les chrétiens, dans l'Esprit Saint, animés par Jésus-Christ. Gédéon, en demandant des signes, a exprimé son sentiment d'abandon à la puissance de Dieu. Il savait qu'il était rien, il voulait être certain de la puissance de Dieu. Et il l'a vu. Il l'a vu. Et moi, je voulais être certain, pour notre ami Michael, qu'il était convaincu de la puissance de Dieu quand on a été prié pour sa sœur. C'était pas pour faire de l'esbrouf et le mettre dans la gazette. C'était pas pour casser les pieds à sa sœur et l'obliger à devenir chrétienne. Pas du tout, on n'est pas ici. C'est simplement le signe. Et chacun le comprend comme il veut, le signe. Quand je vois le long de la route un panneau indicateur, c'est marqué Paris, je ne suis pas obligé d'aller à Paris. J'ai un autre qui est marqué Reims, pas non plus. Un autre Bruxelles. Mais les signes, c'est comme ça, c'est comme les panneaux indicateurs. À celui qui veut bien prendre le chemin du ciel, le chemin de Jésus-Christ, il suit. Il obéit au panneau indicateur. Donc, quand Gédéon reçoit un ordre de mission, et il est en train de se laisser changer, de se laisser changer, et il reconnaît son état de faiblesse, il fait accueil et honneur à Dieu, il fait un repas, faites honneur et accueil à Dieu. Prenez du temps pour le louer, l'adorer. Comment voulez-vous qu'il soit devant si vous ne le faites pas? C'est que du mensonge. Il faut avoir des temps avec le Seigneur tout seul. On lui donne la place première. Et c'est pour ça que Jésus a dit, allez dans votre chambre, dans le secret, le lieu secret. Il faut donner le vrai honneur. Pas parce que les autres sont là. Ah, je prie bien devant les autres. Je parle bien devant les autres. Je me méfie de ça. Hein. L'holocauste que offre Élie est approuvé par Dieu. Le feu vient. Est-ce que votre prière dans votre chambre, dans la voiture, dans le champ, au travail, la prière qui est dans votre cœur, où vous donnez Dieu à première place, est-elle approuvée par Dieu? Y a-t-il un feu qui consume les choses impures de votre cœur et qui vous fait avancer vers la sainteté? Y a-t-il un feu, le feu de l'esprit, qui vous donne plus d'amour pour Dieu et pour les autres? Y a-t-il un feu qui vous donne la force de résister aux tentations? De ne plus refaire les cochonneries du passé? Il y a un revirement total de la vie qui se fait. Et c'est Dieu qui offre le feu. Dans Jérémie, chapitre 23, Dieu dit ceci par la bouche de Jérémie. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc de vos péchés ?» La puissance de Dieu est à l'œuvre dans le cœur qui se laisse faire, qui s'abandonne à lui. Grâce au rendu. À ce récit de Gédéon, grâce soit rendue au témoignage de cette vie qui est transformée par l'ange éternel, grâce soit rendue à Jésus-Christ, dans nos vies, qui veut agir et qui agit, pour nous glorifier, pour faire de nous des enfants de gloire et de son royaume. Amen.